Alors, je suis Yann Dervin, président de ma propre société qui s'appelle Dervin Conseil. J'étais il y a encore quelques semaines directeur du collectif Effinergie, donc association de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. Alors, on va parler aujourd'hui d'indicateurs pour la qualité environnementale des matériaux. Ce sujet de la qualité environnementale des matériaux est maintenant sous les projecteurs depuis... C'est un sujet de travail depuis longtemps, mais depuis la nouvelle réglementation environnementale 2020 qui s'applique aux bâtiments neufs, forcément, on a la lumière qui est faite sur ces matériaux et leur impact environnemental, même si dans un premier temps, la réglementation s'intéresse qu'aux aspects énergétiques et carbone. Mais les autres sujets environnementaux sont également traités dans ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie sur ces produits, qui servent justement à calculer l'impact carbone des matériaux et donc des bâtiments pour respecter certains critères définis par la réglementation environnementale 2020. Alors, donc on va aborder ces sujets-là avec mes deux intervenants qui vont tout de suite se présenter, donc Dominique Cottineau. Ça va me permettre de mettre rapidement ta petite présentation.
Bon. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Yann. Donc effectivement, je suis délégué général de l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois, qui est une organisation professionnelle qui rassemble 300 entreprises industrielles de la construction bois et des produits de bois construction, allant de la TPE à la major. Avec un certain nombre de chiffres, dont le chiffre d'affaires du bois construction aujourd'hui de 4 milliards d'euros. Si on passe sur la slide suivante, un petit panel, je ne sais pas si les présentations seront diffusées, mais qui vous permet d'identifier quelque part le secteur de la filière forêt-bois et bois construction, parce qu'elle est souvent méconnue. Donc un certain nombre d'acteurs allant de la graine au produit final et sur la partie construction, effectivement, l'UICB qui incarne ces industriels de la construction bois et du bois construction. On va peut-être rester sur la slide précédente ou tout au moins passer peut-être sur la présentation.
Je ne voyais pas la même chose sur mon écran, j'étais tout perdu. Voilà, c'est celle-là que tu voulais que je mette. Hein.
Voilà, tout à fait. Un nom qui rassemble les différentes organisations professionnelles, comme je le disais, de la graine au produit fini, dont le produit de construction.
Merci. Et Sylvain Laurenceau.
Merci Yann, bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, Sylvain Laurenceau, moi je fais partie du CSTB, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. On est à peu près 1000 et on a 5 activités principales. Donc des activités d'évaluation pour lesquelles on est assez largement connu, notamment les dispositifs d'avis technique et d'appréciation technique d'expérimentation. Mais également du coup des activités de certification, d'essai, de diffusion du savoir avec notamment un service formation qui met en place et qui anime de nombreuses formations. Et puis enfin des activités de recherche et expertise qui représentent une grosse part de une autre activité et qu'on a dissocié en 4 domaines d'action stratégique. Et donc je m'occupe d'une équipe qui travaille principalement sur l'économie circulaire.
Merci. Eh bien on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, Dominique, sur... ce qu'on peut dire sur les indicateurs au sens large sur le bois et les matériaux.
Alors effectivement, si on parle d'indicateurs environnementaux sur les produits de construction au sens large, vous l'évoquiez tout à l'heure, Yann, on vient de connaître l'arrivée de la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, et qui marque finalement la première réglementation au niveau de la construction qui prend en compte l'aspect environnemental, puisque la première réglementation sur la partie performance énergétique date de 1974. Et donc, de ce fait, on a été pendant des décennies uniquement sur un indicateur énergétique. Et puis, enfin, dirais-je, ou parce que c'est une nécessité, je vois que les phrases de Saint-Exupéry et de Bergson illustrent bien cet aspect-là, l'aspect environnemental est enfin pris en compte. Et pris en compte au travers d'une analyse de cycle de vie du bâtiment pour mesurer son impact carbone sur toute sa chaîne de vie, depuis la fabrication des matériaux jusqu'à sa déconstruction. Et je dirais que le premier indicateur de performance environnementale des matériaux. C'est ce qui sert à calculer cette analyse de cycle de vie. C'est ce qui est aujourd'hui basé sur un fonctionnement commun qui est la fiche FDES ou la fiche PEP lorsque l'on parle des produits, mais on parle de matériaux. Donc la fiche FDES qui va donner des indicateurs de performance environnementale sur les produits calculés de la même façon, soit par les industriels, soit, comme l'illustre la slide, par des configurateurs génériques que les différentes filières ont développés ou que différents industriels ou groupements d'industriels ont développés pour qualifier cette performance environnementale des produits.
Et Sylvain, sur l'amélioration de la connaissance, la caractérisation de l'éco-conception, je peux te mettre ta présentation si tu veux.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Donc effectivement, hein, on vient de le dire, donc là il y a la réglementation environnementale qui arrive et donc qui intègre un vrai changement en termes de périmètre, où avant on était vraiment sur la phase d'exploitation du bâtiment, et là on intègre toute la partie construction, les impacts associés à la construction. Donc ça c'est une présentation des activités du CSTB, peut-être la slide d'avant.
Tu voilà. peux revenir, non c'est bon.
En fait, ça vient pas de nulle part. Alors, ce graphique va vous faire un petit peu peur. Il est très centré sur l'économie circulaire. Bref, la réglementation environnementale, elle vient pas de nulle part. En fait, elle vient notamment d'une loi qui s'appelle la loi Elan et qui dit du coup qu'on va intégrer, on va avoir une approche environnementale, une approche complète en termes de cycle de vie. Que dans une première étape, on va prendre en compte le carbone. Et c'est pour ça que la réglementation environnementale, elle intègre ce critère carbone, mais qu'ensuite on intégrera des indicateurs qui sont associés à la matérialité, de contenu recyclé, de potentiel de recyclage, de potentiel de réemploi. Et donc ce schéma-là, en fait, il est surtout là pour vous faire comprendre qu'en ce moment, il y a un environnement législatif, normatif, incitatif, qui évolue beaucoup autour de, notamment de l'économie circulaire, avec... la frise du milieu, vous allez avoir du coup au niveau national les lois et les réglementations, donc qui généralement découlent des lois. En bas, vous allez avoir l'échelon européen, parce qu'il y a beaucoup de choses qui découlent directement de l'échelon européen, sur lesquels il y a pas mal de travaux qui se mettent en place. On a parlé de taxonomie verte, on a parlé de normes autour de l'économie circulaire. On a pas mal de groupes de réflexions qui se mettent en place autour de ça. Et puis de dire qu'au-delà de la norme et au-delà de la réglementation, on a aussi beaucoup d'acteurs qui se mobilisent indépendamment de tout ça. Et donc ça, c'est plutôt la frise du haut pour dire qu'à toutes les échelles, ça se bouge et ça se mobilise. On a au niveau des territoires un certain nombre de chartes qui se mettent en place autour de l'économie circulaire. Pleine Commune en a mis une, la ville de Lille a travaillé dessus également. Et maintenant, on voit que l'ensemble des métropoles cherchent à faire avancer le sujet en allant au-delà justement de ce qui est réglementaire. Ça c'est au niveau des territoires. Ensuite, au niveau des ouvrages, on voit que l'ensemble des labellisations ouvrages, BRIM, LEED, HQE, BBCA et ainsi de suite, intègrent de plus en plus cette question d'économie circulaire, et notamment le réemploi qui est un peu une forme d'emblème. Et voilà, on a vraiment cette intégration progressive dans tout ce qui se fait au niveau de l'ouvrage, de l'économie circulaire. Et puis ensuite, au niveau des produits, on a de plus en plus aussi d'industriels qui cherchent à avancer sur l'éco-conception ou à mettre en place soit du reconditionnement de leurs produits, soit de la récupération, pour ensuite pouvoir mieux les recycler directement dans le process. Voilà, ça c'était, je pense qu'on peut passer à la slide, à la slide suivante. Je vous ai parlé du coup d'économie circulaire et de domaine d'action stratégique du CSTB autour de l'économie circulaire. Ça c'est juste une petite présentation rapide de nos trois axes de développement là-dessus. Le premier, c'est la connaissance des flux de matière. Aujourd'hui, dans ce qui concerne, quand on se met sur un territoire, un patrimoine ou un gisement spécifique, on a du mal en fait, à comprendre, à caractériser ce qu'on consomme aujourd'hui, ce qu'il y a dans le stock, ce qu'on produit comme ressources, comme déchets, comme PEMD. Et donc, ce qu'on en fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait en faire. Et donc, il y a tout un travail d'amélioration de la connaissance statistique des flux de matière dans le secteur du bâtiment. On estime aujourd'hui, par exemple, que le bâtiment produit à peu près 46 millions de tonnes de déchets par an. Pour comparaison, c'est 30 millions pour l'ensemble des déchets ménagers. On voit qu'on est sur des volumes qui sont extrêmement importants. On a une grosse incertitude sur les types de déchets qui sont générés, sur les quantités effectives qui sont générées. Le deuxième axe, c'est tout ce qui va tourner autour de la valorisation de l'existant. On est sur des dynamiques assez lentes. on va devoir gérer en fait la matière qui constitue les bâtiments qui n'ont pas forcément été éco-conçus. Et donc, avec ces gisements-là, on va devoir travailler le réemploi, on va devoir travailler le recyclage, on va devoir travailler un changement de mutation, enfin une forme de mutation dans l'approche pour passer d'une logique de démolition à une logique de déconstruction sélective. Donc, c'est aussi tous ces sujets-là qu'on traite. Et puis, le dernier axe, hein, c'est l'éco-conception. Arrêtons, enfin, prenons plutôt... voilà, prenons un peu exemple de ce qu'on a fait par le passé, inspirons-nous-en pour arriver à faire mieux, aller vers des produits qui sont plus facilement démontables, recyclables, réemployables, et des ouvrages qui sont aussi plus facilement réversibles, sur lesquels on puisse changer d'usage. Et donc, dans cette réglementation environnementale, on a l'indicateur carbone, qui est l'indicateur phare de la réglementation environnementale, mais... les fiches de déclaration environnementale et les PEP, les passeports pour les équipements, en fait, produisent plus d'une vingtaine d'indicateurs, dont certains qui portent sur la fin de vie. Et notamment les capacités à être recyclées, la capacité à être réemployée. Et donc, il y a déjà de l'information qui existe. Donc, dans un premier temps, exploitons cette information, fiabilisons-la, parce que comme je l'ai dit, il y a des problèmes de connaissances statistiques de ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces flux de matière, et donc on a besoin de renforcer cette connaissance statistique. Et donc ça se fait un peu, c'est améliorons la photo en fait de ce qu'on fait aujourd'hui, et ensuite travaillons aussi sur le sujet de l'éco-conception des produits. Donc ça, c'est la slide suivante.
Dominique, si tu veux réagir à tout moment, hein, notamment sur le matériau que tu connais bien.
Alors oui, d'une manière générale, mais j'illustrerai sur ce matériau bois et biosourcé. Mais effectivement, on est à un virage. Sylvain le disait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont pris en compte, beaucoup d'entre eux de façon théorique, mais on a bien des indicateurs sur toutes les phases de vie du matériau, et le fait d'avoir des indicateurs, eh bien, le sujet va consister à les améliorer. Donc c'est améliorer les émissions carbone, peut-être en phase conception du produit, fabrication du produit, c'est améliorer ces indicateurs peut-être sur la capacité à stocker le carbone durant l'usage, et puis un gros levier qu'abordait Sylvain, c'est la fin de vie. En fait, on ne s'est jamais véritablement préoccupé de la fin de vie des matériaux. Donc, la loi AGEC, la loi Elan donnent des objectifs de réemploi, de recyclage, de valorisation en fin de vie. Et c'est là-dessus, sur cet aspect-là, je pense qu'il y a quelque chose à considérer et à améliorer. Aujourd'hui, le scénario de fin de vie du bois, par exemple, est considéré par de l'enfouissement, donc un relargage carbone. On n'a pas d'éléments tangibles pour prouver beaucoup d'autres choses, si ce n'est quelque chose d'empirique aujourd'hui. On ne va pas se baser là-dessus. Donc, on a un deuxième virage que prend le secteur du bâtiment, qui est la mise en place de la responsabilité élargie du producteur pour reprendre les déchets de chantier, qu'il s'agisse de chantiers neufs et de déchets inhérents à la fabrication d'un bâtiment, mais aussi tous les aspects de rénovation, de déconstruction, de démolition, ainsi de suite, dont parlait également Sylvain. Et c'est ce volet-là également qui va permettre d'améliorer les aspects de réemploi, les aspects de recyclage, et donc améliorer aussi le scénario de fin de vie des bâtiments. Mais tout est lié, et donc aujourd'hui, l'indicateur fiable et qui est équitable pour chacun des matériaux, c'est bien cette fiche FDES, et le fait d'avoir ces indicateurs va permettre de progresser sur ces aspects-là, dont Sylvain a peut-être plus à nous dire, notamment le recyclage ou le réemploi.
Oui, donc parlons indicateurs, Sylvain.
Ouais, du coup, merci. Merci Dominique. C'est vrai qu'il y a, voilà, on peut dire qu'il y a trois, il y a un peu trois sujets. Hein. Il y a besoin d'affiner les indicateurs de fin de vie qui existent déjà dans les fiches de déclaration environnementale, dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, parce qu'on fait des hypothèses un peu prudente, on va dire, sur la fin de vie. Donc on a besoin d'affiner la connaissance de ces scénarios. On a besoin de développer, comme ça a été dit, le réemploi, le recyclage aujourd'hui. Et là, on est vraiment sur une année charnière en 2022 avec la réglementation environnementale qui va favoriser quelque part l'intégration de réemploi en considérant que les impacts associés aux produits, équipements, matériaux réemployés sont nuls. On va avoir aussi l'arrivée du diagnostic PEMD, donc qui prend la suite du diagnostic déchets. PEM, c'est pour produits, équipements, matériaux, c'est aussi pour mettre l'accent sur le sujet du réemploi. Et puis on a la REP qui va arriver au 1er janvier 2023, avec qui j'espère aura des objectifs ambitieux en termes de développement du réemploi et de développement du recyclage. Donc on a vraiment cette année charnière en 2022, et un avant et un après. Et puis l'autre sujet, donc c'est cette question de comment on fait mieux avec ce qu'on a aujourd'hui pour du réemploi et pour du recyclage, et comment est-ce qu'on travaille aussi cette notion d'éco-conception des produits. Il y a une partie de l'éco-conception qui est prise en compte du coup dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, enfin dans l'analyse en cycle de vie de manière plus large. Maintenant, on est sur des approches moyennes et il n'y a pas forcément l'ensemble aussi des paramètres d'éco-conception qui sont pris en compte. Et donc, on est en train de travailler quelque part sur l'étape d'après, sur quels sont les indicateurs complémentaires à ceux de l'analyse en cycle de vie aujourd'hui qu'on peut développer pour caractériser l'éco-conception et la circularité des produits. Et donc, on a, depuis déjà 2 ans maintenant, en fait, lancé une démarche, déjà d'une part pour identifier les indicateurs qui sont pressentis comme les plus importants pour l'étape d'après. Et donc ça, voilà, ce que je vous présente, c'est sur la partie gauche de l'écran, c'est le résultat d'une enquête qu'on avait faite pour voir quels sont les indicateurs qui sont jugés les plus importants, sachant qu'on a croisé en fait une enquête auprès d'acteurs et puis une analyse de l'ensemble, je ne voudrais pas dire qu'on a été exhaustif, mais d'un certain nombre de textes du coup réglementaires, normatifs au niveau français, au niveau européen, pour mieux comprendre ce qui était aussi dans les développements. Et donc ça nous a permis d'identifier un certain nombre d'indicateurs qui sont à mettre en avant et à faire ressortir, qui portent du coup et qui mettent en avant cette notion d'économie circulaire. Alors ils sont de trois natures. Il y a tout ce qui va concerner les matières entrantes, et notamment le fait de mettre en avant ce qui est des matières recyclées ou des matières renouvelables, donc notamment le bois. Tout ce qui va être associé à l'allongement du cycle de vie, et donc aller vers des produits, équipements, matériaux qui sont plus facilement démontables, plus facilement réemployables et plus facilement recyclables. Et quand on voit ce qu'on dépose aujourd'hui, on se dit qu'on a quand même pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir s'améliorer là-dessus. Et puis le dernier indicateur, c'est la fin de vie. En fait, une fois qu'on aura fait un cycle, 2 cycles, 3 cycles, on peut espérer qu'on augmente un peu le nombre de cycles dans le bâtiment, c'est comment est-ce qu'on optimise du coup la recyclabilité de ces produits-là. Et donc on a lancé des travaux autour de ces indicateurs-là, donc de contenu recyclé, renouvelable, de démontabilité, de réemployabilité et de recyclabilité des produits. On est en train de travailler avec un comité de suivi. On est dans une phase d'expérimentation sur un certain nombre de familles de produits. Et si vous souhaitez approfondir, participer à ces travaux-là et puis participer à la déclinaison du coup, si vous êtes notamment industriel, sur les familles de produits qui vous concernent, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Dominique ?
Oui, alors cet aspect-là, c'est aussi ça présente aussi une difficulté intellectuelle. C'est-à-dire que lorsque l'on parle d'éco-conception aujourd'hui, un industriel, il est tout à fait favorable à améliorer la conception même et la fabrication même de son produit. C'est légitime, c'est ce qu'il fabrique aujourd'hui. Et tous les leviers d'amélioration, parce qu'ils sont aussi économiques ou valorisables, sont intéressants. En revanche, se projeter sur l'éco-conception, ou tout au moins l'éco-démontabilité ou l'éco-recyclage demain d'un produit qui sera recyclé, démonté, réemployé dans 50 ans à minima, voire au-delà, c'est un petit peu compliqué. Et c'est aussi compliqué en l'état des connaissances actuelles, c'est aussi compliqué parce que les produits que l'on travaille aujourd'hui en fin de vie ne sont plus les mêmes que ceux que l'on fabrique aujourd'hui. Donc il y a une gymnastique intellectuelle d'appropriation de cela qui n'est pas forcément facile, mais je pense que c'est un véritable challenge, un véritable défi. Et puis les limites aussi de l'exercice du calcul. On le disait, les fiches FDES permettent aujourd'hui de qualifier un produit, et dans le calcul de l'analyse de cycle de vie de la RE 2020, eh bien, on prend toutes ses composantes. Et la RE 2020 a prévu que lorsqu'on réemploie un produit, son impact carbone est considéré comme nul. Alors c'est intéressant lorsque l'on réemploie un produit qui a un impact carbone conséquent, c'est-à-dire que l'on pérennise son emploi, donc effectivement l'impact carbone n'a pas forcément lieu d'être recompté. En revanche, lorsque l'on a un produit tel qu'un produit bois ou biosourcé qui stocke du carbone, le compter à zéro, c'est pénalisant dans le calcul. Donc tous ces éléments-là vont progresser, vont devoir progresser, et c'est bien à l'aide de ces indicateurs environnementaux au travers de la FDES, une nouvelle fois, qui sont pour moi le socle des choses, et puis le système français avec la base Ignès qui a fait un travail remarquable pour véritablement collecter ces fiches, les vérifier, accompagner également les industriels pour qu'elles soient déposées. Et c'est uniquement ces fiches déposées sur la base Ignès qui sont valides et valables dans le calcul. Eh bien, ça nous ouvre un champ de travail et un champ d'amélioration qui est malgré tout assez intéressant, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Bien, merci. Alors, on pourrait discuter de longtemps, notamment des devenirs des produits. On pourra le faire sur le bois si nécessaire, mais j'ai plutôt envie de vous passer la parole éventuellement si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Je vous ai mis un joli schéma là, qui a réalisé le CSTB. Enfin, je ne sais pas si c'est toi ou personne ou si c'est un schéma du CSTB, mais en tout cas sur cet aspect de circularité hein, des matériaux qui est importante. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si oui, on va en prendre quelques-unes. Il nous reste une dizaine de minutes. Il y en a une là. J'ai un micro là.
Bonjour. Une question sur la précision de la donnée. À l'heure actuelle, quand on fait des ACV, effectivement, ce qu'on regarde très massivement, c'est l'indicateur de réchauffement climatique, le kilogramme de CO2 qui sort. Mais est-ce qu'il y a des sujets de fiabilité des autres indicateurs qui vont sortir d'une ACV? Ou est-ce que c'est pas vraiment un sujet, parce que c'est pas des choses qu'on regarde encore, ou même des impacts sur la biodiversité grise, par exemple? Voilà.
Alors, je laisserai compléter Sylvain au besoin, mais il est vrai aussi qu'on est au début d'une histoire, et ce qui peut être déroutant, c'est que la précision n'est pas la même que celle que l'on a, par exemple, sur le calcul thermique. Le calcul thermique, on connaît très bien les variables, on les maîtrise depuis quelques décennies, et on en voit de suite l'impact, et puis qui plus est, l'impact il est souvent palpable, ne serait-ce que sur la consommation liée à l'usage du bâtiment. Sur l'aspect environnemental, ce qu'il faut bien voir, c'est que, et il faut prendre mon propos avec véritablement beaucoup de relativité, c'est que finalement, la décimale, ou la deuxième décimale n'a pas forcément un impact extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas progresser, je pense qu'il faudra progresser, mais on a un certain nombre de données aujourd'hui qui sont relativement théoriques. Hein. Si on prend l'exemple des configurateurs de FDES, eh bien on va prendre des distances de transport qui sont des distances de transport moyennes. Alors on peut l'améliorer en ayant une FDES projet, une FDES produit, qui va fiabiliser, par exemple, les données de transport. On a des améliorations aussi possibles sur le volet énergétique par rapport à la fabrication même du produit. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles l'aspect précision intrinsèque peut encore gagner en pertinence, oui.
Et puis, est-ce que c'est perfectible? Oui, très clairement. Enfin, il y avait tout à l'heure l'exemple d'une FDES sur des produits bois avec un scénario de fin de vie 100% enfouissement. En parallèle, on sait qu'en moyenne, le bois, aujourd'hui, il est valorisé à peu près 75%. On va dire à moitié en valorisation matière sur du recyclage et à moitié en valorisation énergétique, en ordre de grandeur. Donc voilà, on voit que les scénarios de fin de vie qui sont pris en compte dans cet exemple-là sont basés sur des hypothèses assez prudentes, parce que ça manque justement d'informations statistiques fiables. Et ça, c'est du coup un exemple sur le besoin de pouvoir progresser sur l'amélioration de cette connaissance-là. Donc on est en train d'y travailler. Voilà, la réglementation environnementale est une première étape, et une très bonne première étape. Elle ouvre un certain nombre de champs. La fiabilité des données en est une. On pourrait parler aussi des durées de vie. Quid des durées de vie? Est-ce que certains produits sont plus durables que d'autres? Est-ce que certains équipements sont plus durables que d'autres? Est-ce que on est sûr que dans tous les contextes on a les mêmes durées de vie? Donc il y a aussi un chantier autour de la durée de vie réelle, de la durabilité, la comparaison de cet ensemble-là. Et donc ça ouvre voilà un certain nombre de perspectives qui vont pouvoir être développées dans les années qui viennent.
Et en revanche, si on est bien d'accord que la FDES aujourd'hui est la caractérisation d'un produit. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que lorsque l'on va regarder l'impact d'un bâtiment au travers de son analyse de cycle de vie, c'est bien l'impact du bâtiment qu'il faut prendre en compte. Et de façon à bien considérer que c'est l'usage du bon matériau au bon endroit avec le plus faible impact carbone qui puisse être qui va permettre la performance globale du bâtiment. Il ne faut pas forcément comparer produit de construction à produit de construction, parce qu'il y a des éléments structurels ou même sur certains équipements, sur le volet des PEP, qui ne fait pas que la somme des meilleurs produits va faire le meilleur bâtiment en termes de somme.
Oui, ça c'est aussi important d'avoir aussi cette logique d'ouvrage.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, une question là-bas. Mais avancez.
Bonjour. Je voulais poser une question d'un point de vue des matériaux issus de la production, enfin de la pétrochimie. Comment est-ce que vous voyez ça dans le futur, étant donné qu'il y a des grandes émissions au niveau de la production ? Comment est-ce que, parce que c'est efficace, ça permet un gain de place dans les grandes villes, etc. Donc, quel est votre point de vue par rapport à la pétrochimie, s'il vous plaît ?
Si je reformule, quel avenir pour les produits issus du pétrole ? Et du coup, plus de place pour les biosourcés et moins de place pour les produits pétrole. Hein, c'est ça un peu le message que vous voulez faire passer. Alors, je vous laisse répondre. Moi aussi, j'ai des éléments de réponse, mais je vous laisse répondre.
Effectivement, je ne vais pas forcément être contre. Néanmoins, je pense que le monde est embarqué sur la notion de la décarbonation. Il y a à la fois une urgence et une prise en compte récente de ces aspects-là, qui, là aussi, s'accélère par le réchauffement climatique. Les dernières communications du GIEC qui datent de 24 heures vont encore dans ce sens. Donc, je pense que les process industriels visent tous à s'améliorer. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant sur une vague de fond. Il y a des process industriels de fabrication, mais qui nécessitent encore du recours à des énergies qui sont carbonées. Ces filières-là, je les vois et je les imagine au travail, elles vont diminuer. Et puis, des filières qui sont, je dirais, plus vertueuses sur un aspect lié au produit même, doivent monter en puissance, monter en volume. C'est ce qui se traduit par la RE2020, où on va avoir un recours aux matériaux bois et biosourcés dans la construction qui va être plus important qu'auparavant, parce que c'est une réponse qui est apportée. Une nouvelle fois, ça va être le bon matériau au bon endroit, au droit de son impact carbone, qui tend à diminuer pour ceux qui le sont.
Yeah, oui, et puis, alors, bien sûr, les biosourcés sont des produits intéressants, mais qui peuvent poser encore des problèmes ponctuels de filières, d'approvisionnement, de capacité à produire, de caractérisation aussi, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et de comportement, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations, notamment en présence d'eau, où il y a quelques produits biosourcés qui peuvent y répondre, mais ils restent quand même assez chers, je pense au liège notamment. Mais voilà, donc en fait, je pense que la solution est plutôt multiforme, et il est vrai que de toute façon, les industriels sont tous, comme le disait Dominique, sur une logique de décarbonation de leurs procédés. Et dans les bâtiments en général, on sera aussi sur une logique de plus de mixité des matériaux. Et je pense que l'avenir est plutôt là. Et puis après, dans 10, 20, 30 ans, on verra ce qui se passe. Mais pour le moment, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc c'est plutôt de faire progresser progressivement et de travailler plus sur la mixité, à mon sens. Voilà.
Ouais, mais là-dessus, c'est, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Hein, c'est le bon matériau au bon endroit. On ne va pas tout faire avec du biosourcé. Il y a certaines performances, notamment l'exemple de l'eau a été donné, certaines performances qu'on va pas pouvoir, qu'on va pouvoir aller chercher très difficilement avec du biosourcé. C'est plus un niveau d'ensemble, mouvement d'ensemble. Il faut développer les solutions biosourcées, et du coup, ça, y a des questions de filière, des questions de justification des performances techniques. Ça prend du temps, en fait, à structurer ces éléments-là. Et puis après, toutes les filières existantes, il faut aussi les faire progresser vers une meilleure, du coup, enfin, de la décarbonation d'un côté, mais tout ce qui va être la valorisation des déchets, le recyclage, le réemploi sont également des pistes qui sont importantes, quoi.
Merci. Alors, on a épuisé notre temps de parole. Alors, allez, une dernière question là devant. Si vous avez le micro, où est le micro ? Voilà, on vous amène un micro.
Bonjour. Oui, c'est une question un peu basique. Est-ce que l'empreinte carbone du bois recyclé est plus ou moins favorable que l'empreinte carbone du bois vierge ?
Elle est très bonne, cette question.
Dans le calcul, non. Dans le calcul, non. Dans les faits, il est clair que le recyclage du bois, qui est essentiellement fléché vers de la fabrication de panneaux de particules, nécessite peu d'énergie pour sa transformation, donc n'a pas un impact carbone significatif eu égard à sa transformation. En revanche, de par le calcul du fait que l'on ne puisse compter le puits de carbone qu'une seule fois, finalement, paradoxalement, ça devient moins bon en termes de calcul. Mais ça fait partie, là aussi, des éléments d'amélioration que l'on devra avoir collectivement. Je parlais aussi tout à l'heure du réemploi à fonction dans le calcul de la RE2020 compté à zéro lorsqu'on a un produit qui stocke du carbone. Ce n'est pas forcément juste et c'est très, très judicieux et pertinent pour des produits qui sont initialement carbonés. Donc ça fait partie des voies d'amélioration. Moi, je dirais, je crois qu'on arrive vers la fin, sur ce côté des indicateurs, on a des indicateurs. Ils sont intéressants, notamment sur le fond, parce qu'ils vont nous permettre de progresser sur différentes étapes, ce que vous évoquez comme problématique, ce que vous soulevez comme problématique, sur la fin de vie dont on a parlé, sur l'éco-conception en fabrication, et puis l'éco-conception fin de vie. Donc le fait d'avoir ces indicateurs, c'est finalement ce qui va nous permettre collectivement de progresser.
Ouais, sachant que c'est un sujet en gros d'économie circulaire, on a plusieurs cycles, et donc comment est-ce qu'on répartit les impacts entre les différents cycles ? On l'a sur le bois recyclé, on peut l'avoir aussi sur des coproduits, par exemple, qui peuvent être utilisés en substitut du clinker dans les bétons. Donc ça, c'est des questions en fait, qui sont aussi en train d'être travaillées, d'avancer sur la répartition des allocations entre les différents maillons de la chaîne.
Bien, merci. On va clôturer cette conférence. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à nos intervenants. Vous avez vu qu'on a... Enfin, moi, je trouve que c'est motivant, cette dynamique sur les matériaux qu'on a grâce à la mise en place, la dynamique lancée par la réglementation, la réglementation 2020. Il y aura d'ailleurs tout à l'heure à 14h, en salle 7, une explication plus claire des leviers carbone dans la réglementation 2020. Et donc, je vous invite à y participer si vous le souhaitez. Ça permettra de faire un point sur cette réglementation d'un point de vue carbone et d'un point de vue énergie. Voilà, merci à tous et bon salon.